Bonjour et bienvenue dans l'After, l'émission qui analyse la réception et distribution des œuvres cinématographiques. Comme toujours, sont réunis autour de cette table Sarah, Elisa, Aïcha et moi-même Héloïse pour vous parler de l'After du cinéma français. Au programme du jour, nous nous penchons sur le cas Mektoub Maalov Kanto Ouno, réalisé par Abdelatif Kechiche et sorti en mars 2018. Le film est inspiré librement du roman La blessure, la vraie de François Bégodeau. Et pour résumer, ce film nous place aux côtés d'Amine, jeune scénariste installé à Paris mais revenu pour l'été à Sète, sa ville natale, où il retrouve famille et amis d'enfance. Amour, amitié, jeux de séduction seront au rendez-vous. Mais quand vient le temps d'aimer, seul le destin, le Mektoub, peut décider. Tout de suite, un extrait du film.
Bonjour. Oh,
il m'a fait peur.
Qu'est-ce que vous faites? Rien, on discute. Vous discutez de quoi?
Un débrief, la soirée de la veille.
Et alors, ça donne quoi?
Bah, c'était cool.
Ça donne que t'es chaude.
Chaude.
T'es trop chaude.
T'es trop chaude comment?
Ben, je sais pas, tu te souviens pas?
Non.
Je sais
quoi?
Bref.
Non, en fait, vous observez tout à
l'heure. Quoi?
Vous observez.
Ah ouais?
Bah oui.
Qu'est-ce que t'as observé?
Ben, j'ai apparu vous parler sans moi.
Sans toi ou sur toi?
J'ai pas l'autorisation de...
Sans moi, non, pas encore.
Bien, madame.
Je te la donnerai dispo.
Ultérieurement.
Ultérieurement. Mais pas sans moi.
Entre un réalisateur qui divise le public, une production mouvementée, des acteurs inconnus, une durée de 3 heures, la distribution du film s'annonce être un défi. C'est pourtant les plus puissants acteurs du marché français qui vont à la fois produire, distribuer et diffuser ce film, Pathé, France Télévisions. Mektoub Maalov Kanto Ouno sort en 2017 à Venise et c'est particulièrement un buzz au niveau médiatique. Une critique professionnelle et amatrice vacillant entre éloge et excès de négativité. La Croix parle de naufrage, tandis que Télémarama évoque un hymne au bel âge. Aujourd'hui, nous tenterons de comprendre comment les festivals et la critique ont été des enjeux majeurs et ont joué sur l'after de Mektoub Maalov Kanto Ouno.
Pour cela, nous nous sommes entretenus avec différents professionnels du cinéma. Christophe Leparc, secrétaire de la Quinzaine à Cannes et directeur du Cinémède. Jérôme L'Aiguillé, directeur d'une agence d'acteurs et enseignant dirigeant et enseignant au cours Florent. Muriel Joudet, critique professionnelle, notamment aux Inrock et au Monde. Mathieu Macheret, critique et historien, particulièrement intéressé par l'œuvre de Kechiche. Nous avons également pu contacter les exploitants qui ont programmé le film en salle, dont Noémie Bédred, du Cinéma Diagonal à Montpellier. Enfin, Marie, une étudiante en cinéma, pourra nous parler de son expérience en tant que festivalière à Cannes et spectatrice d'Intermezzo.
La première phase de vie d'un film, c'est en général le festival, tout particulièrement pour des œuvres que l'on définit comme film auteur. C'est lors de sa première mondiale à Venise que Mektoub Maalov Kanto Ouno a donc été dévoilé au monde. Mathieu Macheret, critique cinéma, nous parle un peu de ce festival.
Le festival de Venise, c'est le plus ancien des festivals de cinéma et date d'avant celui de Cannes. Hein. Il fait partie des festivals de catégorie A qui ont une couverture assez large, même si évidemment rien n'égale la force de frappe et l'exposition qui est celle du Festival de Cannes, qui offre une rampe de lancement au film assez extraordinaire. Venise arrive après, il a des plus petites dimensions, mais malgré tout, que ce soit Venise, Cannes, Berlin, Locarno, les festivals de catégorie A sont très recherchés pour les lancements des films. Après, il y a une sorte de hiérarchie qui est peut-être établie après pour les stratégies de distribution, etc. Venise a un énorme avantage, mais c'est pour les films américains, dans le sens où il se passe à la rentrée, début septembre, et il a un positionnement parfait pour lancer les films dans la course aux Oscars. Souvent, les Américains privilégient la Mostra de Venise au Festival de Cannes, par exemple, parce que pour eux, c'est plus intéressant pour la campagne des Oscars.
Mais qu'en est-il des enjeux autour d'un tel festival?
Pourquoi avoir inscrit Mektoub dans un festival de classe 1?
Christophe Leparc, secrétaire à la Quinzaine des réalisateurs, nous éclaire sur le sujet.
Le but du jeu, c'est que, en tout cas pour la compétition en métrage fiction, ces films trouvent des distributeurs et puissent être ensuite distribués dans toutes les salles de France et une audience beaucoup plus large en termes non seulement de géographie, mais d'impact. Le but du jeu étant toujours que l'exposition en festival permette soit à des distributeurs de découvrir le film parce que la presse en aura bien parlé, soit quand un film a déjà un distributeur, de mesurer la notoriété et le potentiel que pourra avoir le film en salle. Et pour un vendeur, de placer le film dans un maximum de pays auprès de distributeurs.
Si le festival de classe 1 peut propulser un film, il peut également le mettre à rude épreuve. C'est le cas de la suite de Mektoub Maalov Intermezzo.
écoutant le retour et avis de Marie, étudiante en cinéma, puis de Jérôme Le Guyet, agent artistique et enseignant ayant suivi des acteurs du film.
On savait aussi qu'il y avait une grande possibilité que le film ne sorte pas en salle. Donc c'était une opportunité de voir quelque chose qui peut-être ne sortirait jamais, dont on pouvait rendre compte aux gens qui ne l'auraient pas vu. C'était une projection à 22h. Pour un film de 3h30, ça finit très très tard. La montée des marches a été un peu bizarre, si je puis dire, parce que à Cannes, il faut savoir que le réalisateur monte une fois les marches et Biatif Keshish a décidé de monter deux fois les marches. Et là, ça a fait parler. Bon, c'est un peu l'ambiance Cannes, finalement. L'équipe était au complet, excepté Ophélie Beau qui a quitté la salle en pleine projection. Ça a amené une ambiance un peu particulière à la projection. Sur 3h30 de film, on peut penser qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis pendant la projection. Énormément de gens ne s'attendaient pas du tout à ce type de film, cette forme-là. On a quand même une heure de scène de plage, 2h30 de scène de boîte ininterrompue. Donc énormément de gens ont quitté la salle. Il y avait beaucoup de gens qui râlaient, qui soufflaient. C'était très long. Donc c'était la première fois que je vivais une projection comme ça à Cannes. Quand je vois le film avec l'équipe, je suis tout de suite touchée par le fait que l'équipe soit là, de voir le réalisateur, la réalisatrice qui s'exprime à la fin, de les voir émus. Et forcément, ça ajoute une plus-value à ce qu'on peut voir dans le film. C'est une plus-value qu'on n'a pas quand on le voit au cinéma ou chez nous. Bon, là, pour le coup, ça a eu l'effet inverse sur Mektoum Intermezzo. Bon, à Cannes, ils ont tendance à prendre beaucoup de films très différents sans se soucier de la forme. Je pense que là, c'était pas adapté. Parce que déjà, c'était beaucoup trop tard. Pour les festivaliers, c'est extrêmement compliqué de finir à 2h du matin après 4h de film. Et étant donné le propos du film, je pense que le Festival de Cannes aurait mieux fait de ne pas le sélectionner.
C'est toute l'intelligence de Thierry Frémaux et de l'idée d'une programmation. Ils ont placé ça 2 jours avant la fin du festival, c'est tout à fait bien vu parce que ça a fait le petit scandale en fin de festival, au moment où tout le monde est parti d'ailleurs. Enfin, quand on vit le Festival de Cannes, il faut quand même savoir qu'il y a les 3 premiers jours de démarrage, ensuite il y a un week-end très festif et plein, et puis après il y a une période de creux, et puis à la fin il n'y a plus personne. Hein. Donc on se dit, tiens, pour réveiller le festival, pour faire parler du festival. Je pense que le but de Frémaux, c'est aussi de faire parler, et il y a beaucoup de films qu'on fait scandale à Cannes. Moi, je trouve que dans cette idée-là, oui, il a bien joué son coup. Projection à Cannes, c'est au contraire très bénéfique. Hein. C'est un éclairage, c'est le fait même d'être sélectionné, quelle que soit la section à Cannes. C'est pour un distributeur, ça se met sur l'affiche, c'est un plus. Après, est-ce que Keshish en a besoin ? Keshish, il n'a plus besoin de tout ça. Il a eu la Palme d'Or, il a eu le César du meilleur film, il a concouru aux Oscars, me semble-t-il. Enfin, c'est l'idée d'une carrière. C'est quand on a tout eu, est-ce qu'on continue à réavoir des Palmes d'Or ?
Mais un film ne sort pas qu'en festival, il sort évidemment sur nos écrans, en salle de cinéma. C'est alors à la distribution de prendre le relais sur la communication du film que l'on découvre avant tout grâce à son affiche. Muriel Joudet, critique de cinéma, nous donne son avis.
D'après ce que je sais, les affiches sont faites par 2-3 boîtes. Et en fait, ça se sent, c'est-à-dire qu'on sent que cette affiche ressemblait à plein d'autres affiches qu'on a déjà vues. C'est des affiches très formatées. Plein de cinéastes se plaignent de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent avec leur affiche parce qu'il y a des codes à respecter, que ça soit lisible pour quelqu'un qui passe dans le métro. Et du coup, souvent, ils se battent et même s'énervent vraiment contre donc les gens qui font les affiches parce que c'est vraiment de la communication. On n'est pas en train de faire de l'art, contrairement à une époque où les affiches étaient très belles. Donc là, il y avait une envie de lisibilité et ça donnait quelque chose de très fade, de très formaté. On avait l'impression que c'était un film naturaliste quelconque. Ça ne rendait pas compte de la puissance du film. Quoi. Il y avait quelque chose d'aseptisé dans mon souvenir, dans l'affiche.
Et vous, avez-vous vu les affiches et qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Personnellement, je suis assez d'accord avec Muriel. Avec les couleurs claires qu'elle utilise et les 3 personnages qui marchent vers nous, l'affiche évoque plutôt un film français classique plus qu'un film d'auteur.
Il faut rappeler que l'affiche est la base de la stratégie marketing et du positionnement du film, où son rôle c'est quand même d'informer et de donner de la visibilité, mais de toute façon elle va pas être capable de convaincre les publics. Après, au niveau de cette affiche, c'est vrai que ça nous fait pas directement penser à une affiche de Keshish, d'un film d'auteur particulièrement. Et puis, globalement, les acteurs sur l'affiche ne se sont même pas mis en avant. Hein, on ne voit pas leur nom ni prénom. Donc ça pose quand même quelques questions.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des affiches qui ont utilisé l'image d'acteurs et d'actrices. Et leur personne a été qualifiée de quelques adjectifs. Par exemple, on a eu Lou la pétillante, Tony le séducteur.
En effet, le casting a été fortement mobilisé pour faire la promotion du film lors de différentes conférences de presse, festivals et rencontres.
Jérôme Léguyer, agent artistique, qui a notamment suivi Ophélie Beau ainsi que Marie Bernard et Roméo Delacour, qui ont tous les deux joué dans Intermezzo, nous en dit plus.
Mais de toute façon, c'est toujours important que les acteurs soient là pour défendre un film et le porter. En fait, c'est la dernière étape d'un film, c'est-à-dire un film, on l'a préparé, on l'a répété, on l'a tourné, ensuite il est parti au montage, puis un jour il sort. Alors, parfois il sort au cinéma comme ça directement, quoique aujourd'hui il y a beaucoup d'avant-premières, il y a beaucoup d'accompagnement de films par les équipes. Je crois que le temps du star system a quand même un peu disparu, que le public ne va plus au cinéma sur le nom d'un acteur. Moi je suis de l'époque où Belmondo de Lons était très plus gros que le titre. Toutes les affiches, c'était Belmondo, et vous aviez le titre du film en plus petit et le nom du réa en bas. Et c'est un peu terminé ce temps-là. Il y a quelques acteurs américains, et encore, les gens vont voir Joker, vont pas voir Joaquin Phoenix.
Le travail de distribution n'est par ailleurs jamais une mince affaire, surtout lorsque l'on travaille avec Abdelatif Kechiche. En effet, plusieurs rumeurs sur la relation entre Kechiche et Pathé Distribution courent, mettant probablement en péril la vie de ses films à venir. Nous n'avons malheureusement pas pu nous entretenir avec Pathé, mais voici les échos que nous avons eus quant à la distribution du film.
Là où c'est un cas particulier Kechiche, c'est que il s'est, je crois, systématiquement fâché avec ses producteurs. Et la sortie de Canto Uno a été très 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 compliquée pour Pathé, à tel point qu'il y a des gens de Pathé qui ne voulaient plus bosser avec lui, etc. Enfin, c'est très compliqué.
D'ailleurs, depuis la projection d'Intermezzo à Cannes, le film est reparti en montage, la distribution avec Pathé est en stand-by.
Pour accompagner la sortie de Mektoub My Love Canto Uno, la presse a également joué un grand rôle dans sa promotion. Rappelons qu'en général, comme nous l'explique Stéphane De Benedetti, maître de conférence à Paris Dauphine, la critique cinéma dans la presse, lorsqu'elle est positive pour un film, a quatre rôles fondamentaux. D'abord, celui de participer à la réputation et à la légitimité d'un artiste. Ensuite, celui d'orienter le spectateur en amont pour qu'il puisse définir au mieux le film qu'il va voir. Puis, celui d'accompagner la communication marketing du film, notamment lorsque les meilleures critiques sont réutilisées sur les affiches, la bande-annonce ou le DVD. Enfin, en sélectionnant, classant et qualifiant les films, la critique permet en partie d'institutionnaliser l'industrie cinématographique qui devient ainsi un art reconnu par tous. Mais la réception de Mektoub My Love est-elle fondamentalement liée à la critique? En effet, on pourrait croire que plus les critiques sont bonnes, mieux cela porte l'œuvre. Mais est-il possible qu'au contraire, des critiques si divisées, voire si négatives, puissent mettre en danger un film? Qu'en pensent Muriel Joudet et Mathieu Macheret, tous deux critiques de cinéma?
Ça dépend du film, en fait. Sur les petits films, on peut jouer. Sur les gros films, on peut pas jouer. Enfin, sur J'accuse de Polanski, je pense qu'on joue pas parce qu'il y a des gens qui sont fidélisés et qui... Il y a des gens qui boycottent, mais globalement, le film a fait plus de 1,5 million d'entrées. Je pense que ça se joue sur des chiffres tellement infimes, notre influence, qu'il n'y a pas vraiment trop de différence. Peut-être qu'on va influencer les gens sur des petites sorties, des petits films. Au lieu de faire 3 000 entrées, un film va en faire 10 000. Mais les grosses comédies populaires, on n'a pas d'influence. Le cinéma américain, je pense qu'on n'en a pas. Ça va être voilà, du cinéma d'auteur, français ou autre, européen, où là, on va amener quelques personnes à aller voir le film. Même si on est prescripteur, c'est même pas nos critiques qui comptent, ça va être les étoiles à le ciné, en fait. C'est-à-dire que les gens sont même pas, vont même pas lire les critiques et vont juste peut-être se fier voilà, au tableau des étoiles et encore même pas.
Sur le nombre de lecteurs que ça va emmener dans les salles, ça on n'en sait rien, c'est un grand mystère. Il semblerait que la critique ne soit pas directement connectée au fait d'envoyer les gens en salle. En tout cas, il y a un type de film, les gros blockbusters, où on sait que ça n'a absolument aucune influence. Après, sur des films un peu plus petits ou sur une autre catégorie de films, certains cinémas d'auteurs, etc., il peut y avoir une influence dont on a vent par les attachés presse ou les distributeurs, mais c'est absolument pas quantifiable, c'est un phénomène imprévisible, il n'y a absolument pas de règles et de lois dans le domaine.
Il y a aussi une désaffection pour la critique. Quand je sais que j'avais dit beaucoup de mal du Roi Lion dans Disney Live, enfin sur la page Facebook, il y avait 1000 commentaires de gens qui m'insultaient, voilà, et le film a fait 10 millions d'entrées, et là il y avait vraiment un positionnement anti-critique très fort. On se dit, bah, en fait, voilà, il y a 9 millions de personnes qui y vont, donc tu n'as pas voix au chapitre si tu n'aimes pas le film. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont anti-critiques et qui vont même pas lire le papier, qui vont lire juste la phrase d'accroche, que de gens qui vont nous écouter. En tout cas, voilà, notre influence, elle se fait sur des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire des cinéphiles, des étudiants en cinéma, peut-être quelques retraités, mais ça va pas changer la donne.
Il semblerait donc qu'en réalité le rôle du critique ne change pas grand-chose sur ce genre de film autoriste, indépendant et de niche. En effet, au vu du bilan du CNC sur les publics de cinéma en 2018, on remarque que le poids de la critique cinéma n'est pas si décisif. Parmi tous les autres vecteurs prescripteurs d'informations sur les films, il n'est cité que par 21,8% des personnes interrogées. Derrière entre autres la bande-annonce, citée 53,6%, mais aussi le bouche-à-oreille et l'affiche. En fait, la critique n'influe pas spécialement sur la vie du film en salle et auprès des spectateurs. En revanche, elle a un impact sur le long terme en participant à l'écriture de l'histoire du cinéma, comme nous l'explique Mathieu Macheret.
C'est une trace aussi, la critique. C'est aussi la mémoire de la réception d'époque. Quand on revient aux textes qui ont été écrits, on peut se faire une idée à l'époque de comment un film a été reçu il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, etc. Les critiques font un petit peu l'histoire du cinéma, en quelque sorte.
D'ailleurs, qui a programmé le film ?
Le film a été programmé dans différentes salles, multiplex, mono-écran, etc. Pour les salles labellisées art et essai, la programmation d'un film de Kechiche était évidente, comme nous l'a expliqué Noémie Bédred, programmatrice au Diagonal, Cinéma Montpelliérain. Je cite « Nous avons programmé en national le film de Kechiche sans crainte. C'est un auteur que nous suivons depuis ses débuts. »
Si en France et dans différents pays européens, notamment l'Italie, le Royaume-Uni ou la Belgique, Mektoub Malov n'a a priori pas eu de problème pour être exploité, cela n'a pas été le cas pour le Moyen-Orient, alors que Kechiche aurait voulu tourner ce film en Tunisie, pays d'où est originaire la famille du héros, Amin. Pour mieux comprendre la réception, ou la non-réception, du film dans le monde arabe, sont présentes avec nous Aïcha et Hajer. Vous êtes toutes deux étudiantes en cinéma en France et originaires de Palestine et de Tunisie. Bonjour.
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 Plusieurs films de Kechiche ont été distribués dans différents pays arabes. Par exemple, La graine et le mulet en Tunisie et Égypte. La vie d'Edel en Tunisie. Mais Mektoub Mylov n'est sorti dans aucun pays arabe. Selon vous, pour quelles raisons ?
Alors, selon moi, ce que je connais sur la censure dans le monde arabe, c'est que quand le contenu d'un film contient des scènes de sexe, c'est pas acceptable parce que ça ne correspond pas avec les valeurs et la culture dans le monde arabe. Pour cela, le film d'Abdelatif Kechiche Mektoub Mylov s'était censuré. C'est aussi le cas des films qui sont faits dans le monde arabe même, comme l'Égypte. Et c'est une censure pour des films égyptiens qui étaient faits en Égypte. Ça pose un polémique depuis longtemps, car ils contrôlent beaucoup le type de film qui doit être diffusé ou non. Et en plus, en lisant plusieurs articles sur Mektoub Mylov, ils le comptent comme un film pornographique. C'est sûr que ça sera censuré et interdit d'être sorti dans les salles.
Pour Mektoub Mylov, et généralement Abdelatif Kechiche, ces films, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, ont été classés X pendant ces dernières années en Tunisie. Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses, en fait. Ça peut être à cause de l'ascension d'un parti islamique au pouvoir en Tunisie ces derniers temps, après la révolution. Ils n'acceptent pas trop des films qui peuvent vraiment heurter, en quelque sorte, à leur religion, qui est l'islam. Et donc, ça va créer des polémiques en Tunisie, des problèmes. Et donc là, si les films des Kechiche comportent plusieurs scène nudique qui généralement dans l'islam c'est interdit. Je pense que c'est normal que pour eux c'est un film qui est classé vraiment X et pornographique. Ils vont pas en fait faire la différence dans les salles de cinéma pour dire ah non ça, les familles n'allaient pas regarder ces films ou les femmes qui portent des voiles non n'allaient pas regarder des films ce film là. Tu vois, ils peuvent pas classer ça. Peut-être que c'est par pour des raisons politiques. Parce que Abdelatif Kechiche, il faisait partie avant de la génération de Ben Ali, qui est l'ancien président. Il était très genre laïque, libéral, etc. Alors que maintenant, avec l'ascension politique de l'autre côté, un petit peu islamique, etc. Donc déjà, il n'est plus resté en Tunisie. Il est parti en France parce qu'il n'avait pas la liberté de faire quoi que ce soit en Tunisie. Et donc, ils l'ont banni, ses films, tous ses films.
Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il aurait été possible pour Kechiche de tourner son film en Tunisie ?
Pour être honnête, je ne sais pas si lui, il a même déposé son dossier en Tunisie ou pas. Mais s'il l'avait fait, je pense qu'il n'aurait pas de toutes les manières donné le droit de faire le film, de le tourner en Tunisie. Parce qu'avant de tourner, il faut envoyer le dossier. C'est pareil en Tunisie, on a la CNCI. Et c'est un centre d'image et de cinéma, etc. On leur envoie notre dossier, le scénario, etc. pour qu'ils puissent nous donner le droit de le faire ou pas, et tout ça, et les financements. Donc si déjà, dans cette partie, ils remarquent qu'il y a quelque chose qui puisse nuire ou qui puisse faire un problème, eh bien, ils le censurent. Par contre, il y a d'autres personnes qui changent de sujet ou de détail dans le scénario après qu'ils aient pris leurs aides. Après, il y aura d'autres problèmes de censure dans la distribution.
Merci à Isha et à Gère pour cet éclairage. À bientôt.
Après cette étude du cas Mektoub My Love, que peut-on en conclure ?
Et bien que même après Une bonne vie en festival, on a parlé de Venise, mais le film a été aussi sélectionné dans une quinzaine de festivals, à Séville, en Irlande, à Istanbul, et une réception plutôt enthousiaste chez la plupart des critiques cinéphiles, la distribution du film a été assez complexe et le film n'a pas fait énormément d'entrées, environ 130 000 au total en France. Nous n'avons malheureusement pas pu rencontrer les distributeurs du film, mais il aurait été intéressant d'aller enquêter sur les méthodes entreprises par Pathé dans la distribution et les difficultés rencontrées.
Évidemment. Cette émission touche donc à sa fin. Sarah, Aïcha et Elisa, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Merci également à toutes les personnes, professionnelles ou non, venues apporter leur éclairage. Ce podcast vous a été proposé dans le cadre d'une étude universitaire menée sur Mektoub My Love au sein du Master Cinéma de l'Université Paul Valéry. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans l'After.